à Bérée, Paul et ses compagnons trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Pour faire comme les chrétiens de Bérée, si vous n'en avez pas, il y en a là-bas au fond. Et je vous propose de regarder un texte de l'Écriture dont on ne parle pas très souvent, et qui est le texte de l'Ecclésiaste, ou en hébreu Coëlète. C'est un texte difficile. Pourquoi est-ce qu'il est difficile ? Parce que nous sommes habitués à voir des textes dans la Bible qui sont affirmatifs. Par exemple, quand Paul écrit aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Il affirme massivement. Il pose pas de questions. Alors que dans les écrits de sagesse, c'est-à-dire les psaumes, le proverbe, l'ecclésiaste, les cantiques des cantiques, le ton est différent. Ce ne sont pas des affirmations, c'est un questionnement. Un questionnement sur le sens de la vie. Alors je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de l'ecclésiaste. Pour le trouver, ce n'est pas compliqué. Vous prenez votre Bible, vous la coupez en deux, vous êtes dans les psaumes. Vous allez un tout petit peu plus loin, c'est les proverbes, et un tout petit peu plus loin, c'est l'ecclésiaste. Ça commence mal. Fils de David, roi de Jérusalem, parole de l'Ecclésiaste. Alors, selon les traductions, les choses sont un peu différentes. Dans les traductions anciennes, il y avait marqué « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. « Tout est vanité ». Dans une traduction plus récente, il est marqué « Comble de l'inconsistance », dit l'Ecclésiaste. « Comble de l'inconsistance, tout est fumé. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Et vous avez, dans ce qu'on vient de lire, le ton général de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout ça, ça sert à rien. Et cette petite mention, sous le soleil. Et on verra que la clé de tout cela va se trouver à la fin du livre, lorsque l'Ecclésiaste va nous dire, eh bien, si vous voulez comprendre, ne regardez pas seulement sous le soleil, mais regardez au-delà. Je vous invite à franchir quelques versets et aller dans l'Ecclésiaste, le chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Et nous allons lire petit à petit ce chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Qui commence ainsi. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est un peu surprenant comme affirmation. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Un peu curieux comme conseil, hein ? Viens, on va faire la fête. Ah non, je préfère un enterrement. Ça va un peu contre notre façon de penser, hein ? Mais l'Ecclésiaste explique pourquoi. Parce que dans une maison de deuil, ou parce que quand il se passe quelque chose, et il reviendra après, c'est le moment où on peut réfléchir. Et en fait, l'Ecclésiaste, il a écrit son livre pour nous faire réfléchir. C'est quand on voit combien la vie est courte et fragile, et je peux vous assurer que quand on atteint quelques années, on a l'impression que c'est très très court, hein. J'ai l'impression que c'est avant-hier que j'ai fait connaissance avec ma femme. Hein ? 43 ans de mariage bientôt. Et c'est devant la mort qu'on se pose les vraies questions. Parce qu'on se dit, oui, mais alors, après, qu'est-ce qu'il y a ? N'ayons pas peur donc de regarder la mort en face. Celle des autres, parce que quand ça sera la nôtre, ça sera un peu tard pour la regarder. On va continuer notre lecture. Verset 7. L'oppression peut rendre fou le sage, et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement. Je suis très étonné quand j'entends les nouvelles. Hein, quand je fais mes visites à domicile, entre deux visites, j'écoute un peu ce qui se passe dans le monde. Hein, et je suis très étonné de voir la rapidité avec laquelle les journalistes ou des tas de personnes réagissent au quart de tour à la moindre parole de un tel. Et tout de suite, comme ça, on nous balance un commentaire, pas forcément très réfléchi, et tout va très vite. D'ailleurs, c'est pas très étonnant si ce qui est très populaire dans notre monde, c'est Twitter. C'est-à-dire réfléchir en 144 caractères. Avec ça, on peut pas faire de réflexion très élaborée. On est obligé de se contenter d'un slogan, en gros. Hein. Vous ne pouvez pas faire le tour d'une question en 144 caractères. Et pourtant, c'est un peu ce qui caractérise notre monde moderne. Et je trouve que c'est un peu triste. Si on regarde notre Ecclésiaste, il lui faudra 11 chapitres pour se poser des questions avant de nous donner quelques réponses dans le 12e chapitre. Il lui faudra plus que 144 caractères. N'hésitons pas à passer du temps et à réfléchir quand les questions sont compliquées. Elles ont souvent plusieurs aspects. On continue. Verset 10. Ne dis pas, comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci ? Vous me direz, c'est ce que tu es en train de faire là, Jean-Pierre. Ne dis pas que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à te demander cela. Et je suis en repris par cette phrase, parce que moi j'ai bien l'impression qu'avant c'était mieux. Hein ? Bon, c'était peut-être moi qui étais plus en forme avant aussi, hein ? Mais en fait, je suis pas le premier. Je vous lis quelque chose. Nous vivons dans un âge de décadence. Les jeunes ne respectent plus leurs parents. Ils sont désagréables et impatients. Ils passent leur temps dans les bars et n'ont aucune tenue. Vous savez qui a écrit ça ? Moi non plus, mais ça a été trouvé dans une tombe égyptienne qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ. Comme quoi, le problème n'est pas tout neuf, hein? Et puis, quelqu'un d'autre a écrit « Notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée. Elle se moque de l'autorité, n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans, ils ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce, ils répondent à leurs parents, ils sont tout simplement mauvais. » C'est Socrate qui a écrit ça. 470 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, il y a longtemps quand même que les gens se disent « D'où vient que les jours d'avant étaient meilleurs que maintenant ?» Donc, si... Donc, l'Ecclésiaste nous avertit de ne pas considérer notre temps, notre jeunesse. Quand nous, on était aux commandes, qu'est-ce que c'était mieux ? Nous n'étions pas meilleurs que ceux qui sont là maintenant. Continuons. C'est pas très gai, mais à la fin, ça s'arrange, hein. Vous inquiétez pas. Verset 11. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Qui pourra redresser ce que Dieu a courbé? Déjà à l'époque de l'Ecclésiaste, il devait y avoir des hommes qui se prenaient pour Dieu ou qui se croyaient tout puissants. Et l'Ecclésiaste leur répond. Et nous-mêmes, nous sommes dans une civilisation où on pense qu'on maîtrise tout. Bah, il suffit d'un orage de grêle pour se rendre compte que c'est pas vrai, qu'on maîtrise pas tout. Et que quand on est dessous, ben, on n'a plus qu'à la prendre sur la tête. Alors, vous êtes heureux? Eh ben, quand même, là, il y a une bonne nouvelle. Si vous êtes heureux, continuez à l'être. Au jour du bonheur, soyez heureux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, je t'en prie. Mais au jour du malheur, réfléchis. Voilà un conseil de l'Ecclésiaste. Et un conseil aussi du Seigneur. Est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur a pris la peine de donner de la joie? C'est pas contenté, si on peut dire, de faire des miracles, de guérir des malades. Il s'est soucié aussi de donner de la joie. Et par exemple, dans les noces de Cana, hein, où il se soucie qu'il n'y a plus assez de vin. Et puis aussi, quand il dit en Jean 17, c'est dans la prière, il dit à son père, « Je retourne auprès de toi, je dis tout cela parce pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils, c'est-à-dire ses disciples, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Le Seigneur avait le souci non seulement d'instruire ses disciples, non seulement de parler de son père, mais aussi de donner la joie à ses disciples. Au jour du bonheur, soyons heureux. Au jour du malheur, réfléchissons. C'est Dieu qui envoie l'un et l'autre, même si nous ne le comprenons pas. Alors continuons notre lecture, verset 15. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance. Un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Ça, on a pu voir. Des gens bien qui meurent prématurément ou qui sont accusés, mis sur la touche, et des gens de mauvaise vie qui sont florissants et qui vivent vieux. J'ai tout vu, dit l'Ecclésiaste. Ne sois pas juste à l'excès. J'aime bien ça. Des fois, quand je trouve que ma conduite n'est pas tout à fait droite, je me dis, oui, mais l'Ecclésiaste, il a dit, ne sois pas juste à l'excès. Bon. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure ? Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. Là encore, l'Ecclésiaste avertit, ne sois pas juste à l'excès. Ce qui doit pouvoir dire, ne te prends pas pour un juste, pour un plus juste que les autres, qui te permet de voir avec sévérité les petites bricoles. Vous savez ce que Jésus a dit aussi ? Attention à pas discerner la paille qui est dans l'œil de ton frère et à ignorer la poutre qui est dans ton œil. Verset 20. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Si vous aviez quelques illusions, là, c'est fini. Il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et il a sorti ça d'un petit conseil. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles prononcées, et ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Il n'y a sur la terre aucun juste, aucun homme juste. Cette phrase va être reprise souvent dans la Bible, et notamment Paul dans l'Épître aux Romains, qui dit « Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. » Et ce diagnostic-là doit nous amener à l'indulgence. Puisqu'il n'y a pas d'homme juste, je ne suis pas juste. Je ne suis donc pas un juste juge sur les problèmes des autres. Soyons donc pleins d'indulgence. Verset 23. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre ? J'ai appliqué mon cœur à connaître et à explorer, à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Et, là ça se corse, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Ce qui est agréable à Dieu lui échappera, celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais un pécheur sera capturé par elle. Ah, c'est encore pire après. Qu'est-ce qu'il nous dit là, l'Ecclésiaste ? Alors, vous savez qu'on pense quand même que l'Ecclésiaste, même s'il ne dit pas son nom, on pense que c'est le roi Salomon. Et il aurait dû mettre en pratique ce qu'il a écrit là. Comme quoi, le fait de prendre des bonnes résolutions, c'est bien, mais les tenir, c'est encore mieux. C'est le syndrome du 1er janvier, vous savez. Hein ? Il aurait dû mettre en pratique ce qu'il a écrit là. Parce que vous savez que ce roi qui a bien commencé, qui était un roi sage, sur le plan de ses fréquentations féminines, il n'a pas été très très sage. Puisque la Bible nous dit qu'il a eu 300 femmes et 700 concubines. Déjà une, c'est compliqué, alors. J'en profite, elle est à la garderie. Mais c'est surtout ce qui était compliqué dans le cas de Salomon, c'est qu'il a pris des femmes qui n'adoraient pas le même Dieu que lui, qui étaient des étrangères, et il les a importées dans son pays en leur permettant de continuer à adorer leur Dieu. Donc, pour qu'elles puissent le faire, il a permis qu'il y ait des temples qui soient, ou des autels qui soient bâtis pour ces dieux-là. Et puis comme probablement il les a un peu accompagnés. Et on peut voir, en lisant le livre des rois ou les livres des chroniques, on peut voir quand même se dégrader ce roi dont la sagesse était légendaire au début de la vie, et puis qui ensuite va se faire mener par le bout du nez. Non, soyons sages. Par ces multiples femmes. Ici, l'Ecclésiaste ne parle pas de femmes de mauvaise vie, mais d'une femme qu'on aime et qui vous mène par le bout du cœur. C'est-à-dire qui va vous, petit à petit, vous détourner de votre amour pour le Seigneur. Pour les jeunes gens qui sont là, attention à nos amours. La personne que nous aimons, si elle ne partage pas notre foi, peut nous entraîner bien loin du Seigneur. Le pire est à venir. Voilà ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000. Mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Bon, je laisse à l'Ecclésiaste la responsabilité de sa misogynie. Voilà, c'est... Comment dire ? À notre époque, c'est pas très bien reçu ce genre de discours, hein ? Mais peut-être aussi qu'à notre époque, les femmes sont plus instruites que ce qu'elles étaient à l'époque de Salomon, parce que je pense que... Voilà. Passons. Verset 29. « Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. » Voilà, en une phrase, résumé tout ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Dieu a fait les êtres humains droits. Mais eux, ils n'ont pas voulu marcher droit. Les êtres humains, hommes et femmes, n'ont pas accepté la direction que Dieu leur donnait. Et ils sont partis à droite, ils sont partis à gauche. Souvenez-vous, au Jardin d'Éden, il n'y avait pas grand-chose d'interdit. Une chose. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Eh bien, s'il y a une chose d'interdite, c'est celle-là qu'on a voulu faire. Et les humains, encore à notre époque, pour se débarrasser de Dieu, pensent qu'ils sont suffisamment sages pour se conduire eux-mêmes. Il n'y a qu'à écouter les nouvelles pour savoir que ça ne marche pas. Alors, quel est le secret de l'Ecclésiaste ? Parce que on pourrait, je vous ai lu un chapitre, mais on pourrait en lire 11, où l'Ecclésiaste accumule les mauvaises nouvelles. Et ça, j'ai vu ça, et c'est pas bien. J'ai vu les richesses, et c'est pas bien. J'ai vu l'alcool, et c'est pas bien. J'ai vu les femmes, et c'est pas bien. J'ai vu, voilà. Alors comment comprendre ? En le prenant pour un tout, surtout ne lisons pas qu'un petit bout de l'Ecclésiaste. Il faut le prendre pour un tout. D'ailleurs, vous verrez, dans un des versets qu'on va lire, qui est vers la fin, il dit « Voici la fin du discours ». Donc en fait, tout ça, c'est un discours. Et un discours, on n'en prend pas qu'un petit bout. On le prend un tout. Et je vous invite donc à feuilleter votre Bible pour aller au chapitre 11. Et on va lire quelques phrases du chapitre 11 et du chapitre 12 qui nous donnent la conclusion que l'Ecclésiaste tire de ce catalogue de mauvaises nouvelles. Chapitre 11, verset 9. Jeune homme, mais je pense que ça peut s'appliquer pour les jeunes filles, et même pour les gens un peu plus mûrs. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Donc, on peut se réjouir, on peut être heureux, on peut vivre sa vie, avec l'idée quand même que sur nous, il y aura le regard du Seigneur. Et que le regard du Seigneur, un jour, va nous passer en jugement. Chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Puis là, on va sauter un peu, il y a une description de la vieillesse, bon, qui est très poétique, mais ça sera un peu long. On va sauter au verset 7. « Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. » Et l'Ecclésiaste nous redit au verset 8, « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, ou si vous préférez, vanité des vanités. » Tout n'est que fumée. Verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Je vous donne juste quelques conclusions qu'on peut en tirer. Si vous cherchez une logique dans la vie sous le soleil, vous allez avoir beaucoup de peine à la trouver. La vie sous le soleil, c'est-à-dire limitée à ce que les hommes voient, n'a aucun sens. Vanité des vanités, ou comble de l'inconsistance, futilité complète, de la fumée que de la fumée, disent différentes traductions. Et si on s'en tient là, cette vie pourrait être totalement désespérante, puisqu'elle n'a aucun sens. La liste serait longue des absurdités qui se vivent sous le soleil, et c'est le catalogue que l'Ecclésiaste a voulu faire. Malgré tout cela, on peut donner quelques conseils. On en a vu quand même quelques-uns. Hein ? Au jour du malheur, réfléchis. Recherche la sagesse. Ne te lie pas à quelqu'un qui peut t'entraîner loin de Dieu. Et puis, le conseil ultime, souviens-toi de ton Créateur. Le plus tôt possible. Ah, évidemment, c'est m'écrit au jour de ta jeunesse, mais si on l'a laissé un peu passer ce jour, il y a des sessions de rattrapage. Hein ? Souviens-toi de ton Créateur le plus tôt possible, avant de faire les mauvais choix. Parce que les mauvais choix, même si un jour on change d'avis, il y aura toujours des conséquences à ce qu'on a vécu avant. La seule chose qui peut donner un sens, la conclusion de tout ce discours, c'est qu'il ne faut pas se contenter de regarder ce qui se passe sous le soleil. Qu'il faut se détacher de ce monde et regarder à Dieu, regarder au Créateur. Celui qui a donné l'âme, et qui la reprendra. Celui qui a donné des commandements à suivre, celui qui nous avait fait au départ droit, en espérant que nous le restions, et celui qui jugera en dernier ressort toute notre futilité. Souviens-toi de ton Créateur. Je vous propose un petit instant de silence. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients de notre petitesse, nous sommes conscients de la difficulté de comprendre le monde, de comprendre les personnes, de comprendre ce qui se passe, l'impossibilité pour nous de savoir ce qui va arriver demain. Tout cela, nous en sommes conscients et tout cela nous oblige à lever les yeux vers toi, parce que toi, tu es la seule personne sûre, la seule personne qui ne change pas, la seule personne qui est solide, qui est immuable, d'éternité en éternité, la seule personne dont l'amour est toujours ouvert pour nous. Et nous voulons, Seigneur, nous tourner vers toi. Et lorsque nous rencontrons dans notre vie quelque chose qui nous attriste, qui nous désespère, au lieu de nous rebeller ou de tourner en rond, pensons à ce que nous dit l'Ecclésiaste. Au jour du malheur, réfléchis. Souviens-toi de ton Créateur. Dieu a fait le jour du bonheur et le jour du malheur. Il les a fait tous les deux pour que nous réfléchissions. Seigneur, aide-nous à te voir en toutes circonstances et à nous reposer sur toi.